Vous êtes sur Brume 90.7 dans Confluence spécial cinéma. Malheureusement, Amaury Ballet ne sera pas avec nous ce soir, donc c'est à moi que revient la lourde tâche d'animer cette émission. Mise en son par Jimmy Franky qui est dans la cabine et Raphaël Lorenzo est avec moi pour débattre cette semaine de plusieurs films. Voilà, on s'attendait à une semaine assez faible, assez médiocre niveau sortie cinématographique. Hein. Mine de rien, on a quand même réussi à vous sortir un petit programme assez alléchant avec des films assez inattendus. Je pense à Tekken 3 que je suis allé voir alors qu'au départ j'avais prévu d'aller voir le dernier film des studios Ghibli. Alors peut-être que je le garderai pour la semaine prochaine. Je suis quand même allé voir Tekken 3 d'Olivier Mégaton alors que je n'avais pas vu Tekken 2. Voilà, on en parlera. J'évoquerai également un documentaire de Werner Herzog qui passe demain à 14h30 à l'Institut Lumière. Ce documentaire, c'est La Grotte des Rêves Perdus. Toi, Raphaël, tu reviendras sur une seule sortie DVD.
C'est un peu compliqué pour une interview, mais ça sort en salle en tout cas, dans quelques salles en France.
22 James Street, la suite de 21 James Street.
Qui sort en DVD Blu-ray. Là.
Voilà, et la sortie de The Interview, ce fameux film de Seth Rogen et de Evan Goldberg qui avait été soi-disant menacé par la Corée du Nord en cas de sortie aux États-Unis. Et nous terminerons en troisième partie avec, on va dire, une sorte de carte blanche qu'on va improviser tous les deux autour de la bouffe au cinéma.
Oui, parce qu'il y a des films, je crois, à l'Institut Lumière qui tournent autour de ça.
Oui, alors il y a un film qui est passé hier soir, Le Festin de Babette. Bon, on s'est dit que ça pourrait être une bonne occasion de parler d'un sujet qu'on aime bien, tous les deux.
Surtout moi, je crois. Moi aussi, c'est dommage que c'est pas filmé, parce que moi, je pourrais le prouver, quoi.
Et puis bon, voilà, ça nous permettra également d'évoquer un film, Le Festin chinois de Tsuyark, pour introduire le nouveau Radio Days, le premier Radio Days de cette année 2015, un Radio Days consacré au cinéaste hongkongais Tsuyark. Mais tout de suite, je vais dire un petit mot, ou peut-être que tu veux commencer l'émission, c'est comme tu veux. Un petit mot sur Tekken 3 d'Olivier Mégaton. Alors, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'Olivier Mégaton s'appelait en fait Olivier Fontana. Alors, pourquoi a-t-il changé de nom alors qu'il a un nom qui sonne mignon? Alors, je ne sais pas. Donc, il s'appelle Mégaton en référence à l'attaque à bombe nucléaire d'Hiroshima qui s'est passée exactement 20 ans jour pour jour avant sa naissance. Donc voilà, c'est ce qui est dit. Tekken 3, c'est le troisième volet de cette trilogie entreprise par Luc Besson en 2007-2008 avec déjà Liam Neeson qui campait un ancien agent secret appelé Brian Mills. Dans Tekken 1, on kidnappait sa fille à Paris. Dans Tekken 2, on kidnappait sa femme à Istanbul. Je te pose la question car je n'ai pas vu le 2.
T'as de la chance.
Ben ouais, on a dit du bien d'un point de vue négatif. Et là, Tekken 3, j'y suis allé pour la simple et bonne raison que voilà, ça se passe à Los Angeles. J'avais envie de voir comment Mégaton allait filmer Los Angeles. Et surtout, il y a Forest Whitaker qui, dans le film, joue un inspecteur de police qui a pour mission de poursuivre Liam Neeson qui, cette fois-ci, est accusé du meurtre de sa propre femme.
Ta-ta-ta.
Et ce qui est génial, c'est que sa femme, on comprend qu'ils sont... Alors, je dis ça parce que je n'ai pas vu le deuxième, mais le film commence, on comprend qu'ils sont séparés depuis quelques temps. Et sa femme vit avec un homme assez riche, interprété par Dougray Scott, qui a interprété le méchant dans Mission Impossible 2.
Et dans le très mauvais aussi, Basic Instinct 2, qui jouait le psy qui tombe amoureux sexuellement avec Sharon Stone.
Et en fouinant un petit peu sur sa page IMDb, on a pu voir qu'il n'avait pas pu jouer Wolverine dans X-Men à cause d'un problème au dos suite au tournage de Mission Impossible 2. Et il devait également jouer un autre personnage. Oui, il avait été pressenti pour succéder à Pierce Brosnan pour jouer James Bond.
Mais c'est vraiment un acteur qui est anti-charismatique au possible.
C'est que pour moi, Dougray Scott, je l'assimile automatiquement au méchant de Mission Impossible 2. Et quand je l'ai vu dans le film, automatiquement, je vais griller la fin. J'ai su que c'était lui le méchant.
Mais c'est clair, mais sa gueule.
Alors que dès le début du film, on nous met en scène des méchants russes, comme toujours. Avant le premier, c'était des méchants...
Je sais, c'était des bulgares ou albanais.
Voilà. Dans le deuxième, c'était des turcs.
Ouais.
Et là, c'est des méchants russes. Alors, l'acteur qui joue le mafieux, enfin le grand Manitou de ce gang russe à Los Angeles, il est interprété par un acteur qui a une gueule vraiment assez charismatique. J'ai pas retenu son nom. Et voilà, une sorte de aura. On a l'impression que c'est une sorte de Kaiser Soze dans Usual Suspects. Il est montré lors d'un flashback comme avoir il a buté plein d'Afghans durant la guerre en Afghanistan dans les années 80 entre l'URSS et les Afghans. Il est montré comme un chef assez charismatique que personne peut avoir. Et finalement, Liam Neeson va bien sûr lui casser la gueule. Enfin bref, je vais pas en dire plus sur l'intrigue. C'est pas si mauvais que ce que je l'attendais. J'ai le souvenir d'avoir vu Tekken à l'époque de sa sortie, le premier en 2008, et j'en avais le souvenir d'un très bon nanar, vraiment d'un très bon nanar. Le 2, j'y suis pas allé parce que je n'avais pas eu beaucoup de temps et puis j'avais des retours assez négatifs.
C'est vraiment un navet, lui, pour le coup, il est vraiment pas drôle en plus.
Et puis assez raciste. Hein. Bon, tu me diras dans ce film-là, oui, est-ce qu'on peut, taxer Besson de racisme envers les Russes parce que finalement les Russes sont montrés comme que les vilains, donc il n'y a pas de bons dans leur camp. Alors, oui, bon, certes, mais il faut vraiment plus le prendre comme un. Comme un délire. Encore une fois, je pense que, bon, Luc Besson, on peut penser ce qu'on veut. Je respecte le metteur en scène et le producteur qui est arrivé quand même à imposer une sorte d'empire cinématographique dans le pays où le cinéma a été créé avec rien du tout. On sait d'où il est parti. On ne peut que saluer son ascension. Alors, moi, je suis premier à dire que plus de la moitié de ses scripts sont vraiment pourris. Là, c'est encore une fois, c'est un cinéma vraiment basique. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mégaton, je trouve, se débrouille bien d'un point de la mise en scène, même si c'est quand même assez académique, mais on en prend vraiment plein la figure. Et je continue à penser que là, on est là à critiquer Besson sur tout ce qu'il fait. Tekken 3, ça fait une semaine qu'il est sorti, on est déjà à 1 million d'entrées en France. Tous les films de Besson sont des succès. Lucie, cet été, a été un énorme succès. C'est un film français, Tekken 3, comme toutes les productions Besson, bien que ça parle anglais, que c'est tourné en Amérique. Le film a coûté 40 millions d'euros. Il va bien entendu rentrer dans ses frais. Et dans quelques années, je suppose, enfin, je suis même prêt à penser, je peux même aujourd'hui lancer les paris, qu'on parlera des années 2000-2010 comme vraiment les années Besson, comme maintenant on rend hommage aux productions Golan en disant que voilà, les années 80, voilà, c'était le film dans lequel, enfin, c'est le cinéma où une certaine génération de spécialistes du cinéma maintenant ont vécu à l'âge de 14 ans, 15 ans. Peut-être que dans 20 ans, la génération qui nous suit, hein, qui sont un peu plus jeunes, diront la même chose des années Besson.
C'est dommage parce que nous, on a connu les débuts de Besson. Enfin, à part faire le débat, mais c'était quand même un jeune comme nous qu'on voulait, qui avait plein d'idées. Le Dernier Combat, hein, qui était un grand film révolutionnaire.
Fait, comme Zou de Tsuyar, comme Evil Dead de Sam Raimi, c'est des films qui ont été faits vraiment avec de la sueur, avec du sang, avec des tripes.
Du talent, de l'originalité.
Avec 3 Francis Sous qui ont réussi
inventer une nouvelle esthétique, quoi.
Et qui, oui, parce qu'il fait partie de cette fameuse vague du new look, enfin, ce que les Anglais appellent comme ça, mais voilà, la génération Benex, Léo Scarrax, et donc oui, il est arrivé à un moment donné où voilà, la nouvelle vague, on vivait un peu dans l'esprit et dans le fantôme de la nouvelle vague française, et là, il y a une nouvelle vague, finalement, dans les 80. Et il a réussi à faire son trou, si je puis m'exprimer ainsi, grâce à son premier film, et là, bah, il règne un petit peu comme un abat du 7e art français, du cinéma français, alors qu'il est critiqué par pratiquement tout le monde, toute la critique française. Mais mine de rien, il continue à rassembler 1 million de spectateurs.
Ça, c'est la technique des guignols de l'info. Ça, un scénario chez vous en moins de 30 minutes. Mm. C'est ça, le mec, il écrit constamment. Quoi. Il écrit que des merdes, mais au moins, il écrit. Bon.
Et j'attends de voir. On fera un bilan dans 5 ans et on verra ce que ces studios de cinéma qu'il a créés aura un succès. C'est vrai que c'est quand même dommage que tous les grands metteurs en scène aille à Londres, aille dans les studios Pennywood pour faire leur grande production.
Pour l'instant, surtout ces films, lui. Hein,
voilà, c'est ça. Donc, on fera un bilan en 5 ans. Il y a une grande partie du film a été tournée à Los Angeles, mais tous les intérieurs ont été tournés dans ces studios en Seine-Saint-Denis. Et j'aimerais terminer sur Forest Whitaker, qui est vraiment un des acteurs américains que je préfère. Je ne vais pas dire un de mes acteurs noirs, parce que c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser, mais voilà, tu cites beaucoup Denzel Washington. Pour moi, Forest Whitaker fait partie de cette génération d'acteurs qui vraiment est très charismatique. Et là, malheureusement, il est un petit peu sous
exploité. Bah, depuis la série The Shield, il ne fait pas grand-chose. Hein.
Bah, il joue un personnage quasi identique à celui qu'il avait dans The Shield, un acteur de police
qui charge le pourri.
Voilà.
Mais même Liam Neeson, c'est dommage. Liam Neeson qui commence à devenir une sorte de Steven Seagal de luxe.
Ouais, mais un peu plus charismatique et
oui, mais c'est
joué, qui a une aura quand même.
C'est dommage. Il se fait chier, on sent qu'il se fait chier, qu'il prend la thune, surtout depuis la mort de sa femme. Qu'il est vraiment plus automatique.
Au départ, il était un peu réticent quant au fait de reprendre le rôle de Brian Mills, mais on lui aurait proposé un chèque de 20 millions.
Bah, évidemment, ça se refuse pas. Mais je préfère le voir. Il fait le prochain Scorsese. Là, le tournage commence. Il va jouer un prêtre portugais. Je pourrais le faire voir chez Carnahan dans Le Territoire des Loups, ou évidemment dans Gangs of New York, dans la liste de Schindler. C'est un immense acteur, il faut le rappeler.
Il y a 15 ans, hein, là. Voilà.
Mais il va revenir, moi je crois qu'il va revenir.
Tu vas parler d'une sortie DVD,
Blu-ray, ouais, oui.
De James Street.
On continue sur la comédie, du coup.
Voilà. Là, de la vraie comédie.
Et encore, c'est aussi un film d'action. Donc, 21 Jump Street a été une sorte de très grosse surprise à l'époque, réalisé par un duo assez frappadingue qui s'appelle donc Phil Lord et Chris Miller, deux cinéastes qui comptent et qui compteront de plus en plus à Hollywood. Des cinéastes complètement fous. On parlait justement de jeunes cinéastes qui avaient des idées, du talent. Et ben, ces gens-là, mine de rien, ils ont 30 ans, ils sont en train de révolutionner la mise en scène avec de l'animation, de la 3D, enfin plein de trucs complètement fous, ça part dans tous les sens. Et donc ils nous ont fait ce 21 Jump Street, personne ne l'attendait, adaptation de la série mythique avec Johnny Depp, qui était assez mauvaise, il faut quand même bien le dire, et le film a fait un énorme carton. Moi j'ai adoré, hein, avec Jonah Hill, avec Channing Tatum, c'est un très très bon
Channing Tatum, ça y est, je vais réussir à dire son nom. Hein,
l'acteur bovin, c'est comme ça que je l'appelle.
La semaine dernière, j'avais eu un peu du mal en parlant de Foxcatcher, et il va falloir que j'apprenne vraiment par cœur son nom.
La semaine prochaine. La semaine
prochaine sort le prochain film du frère et la sœur Wachowski.
Il fait le nouveau film des frères Cohen, là, donc il tourne, il arrête pas de tourner, hein, Channing Tatum, un peu dans tous les sens, hein, dans les films d'action, les drames, les comédies. Et donc là, on l'avait découvert là-dedans, ils formaient un très très bon duo, c'était assez respectueux de la série, c'était fun, c'était référencé. Bref, un carton plein, un super film. Et ils décident de revenir même pas un an après. Entre-temps, ils ont quand même fait un autre film, hein, Lego. Hein. Donc les mecs, ils font quand même deux putains de films en moins d'un an. Hein. Et ils reviennent avec donc 22 Jump Street, avec cette idée complètement méta. Méta, donc, c'est-à-dire le film qui parle du film, du sujet dans lequel il est, quoi. Et ce qui est assez drôle, c'est un peu 22 Jump Street, le Scream de la comédie. Comme Scream arrivait très très bien à décortiquer tous les clichés, les archétypes du film d'horreur, je sais pas.
Et puis à poser une thèse, enfin une question sur voilà l'impact des films d'horreur sur ces tueurs en série qui croulent enfin l'actualité. Ça, 95 à l'époque où 96 à l'époque où sort Scream, c'est là où plusieurs affaires ont été classées des massacres suite notamment à des films comme à la sortie de films comme Tueur Né, où ils ont décrit la chronique. Et finalement, ouais, c'est vrai que Scream n'était pas qu'un simple film de tueur en série. Hein. Il posait des questions sur le rôle de la violence au cinéma. Quel impact a les films violents sur une certaine classe de population ?
Mais là, c'est à peu près le même cas, là ? En tout cas, l'idée est de décortiquer la comédie. C'est-à-dire tous les ressorts de la comédie, ou du moins du body movie, du teen movie aussi, puisque en fait, cette fois-ci, ils ne vont plus dans un lycée infiltrer un gang de trafiquants, mais ils vont à la fac. Et à partir de là, ils vont te décortiquer comme ça tous les archétypes, tous les passages obligés. Donc, il y a Nick Offerman, qui est un acteur comique, vous avez pu le voir dans Parks and Recreation, qui est très, très drôle. Donc, il joue l'officier responsable de Channing Tatum et Johnny Hill. Il fait « Bon, personne ne s'y attendait. On a relancé le programme 21 Jump Street. On s'attendait à une grosse merde. Du coup, ça a cartonné. Du coup, les décideurs ont décidé de prolonger le programme. Donc, on va vous faire la suite du programme avec plus de pognon, avec des gadgets, etc. » Donc, tu vois, il annonce vraiment tous les clichés même d'une suite, quoi. Et ils vont les étaler du début à la fin, en disant au bout d'un moment on n'a plus de budget, donc la course poursuite on l'a faite au début du film, on a fait le gunfight, donc maintenant on va faire en fait une comédie avec plus rien du tout, quoi. Et après ils vont au Spring Break et là ça devient complètement fou. Mais en ça c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très drôle, c'est assez bien pensé puisqu'on sent que les mecs ils connaissent parfaitement les films à la Michael Bay. Ils le disent en interview, hein. Ils disent on voulait faire un truc aussi bête que Michael Bay mais aussi intelligent que Godard. Et pour le coup, ça marche vraiment très bien. Ça s'inscrit très, très bien dans la légitimité du premier. Mais, il y a quand même un mais, le film, du coup, souffre du truc classique, c'est-à-dire l'effet de surprise n'est plus là. On comprend tout de suite où ils veulent en venir, dans ce côté méta. Et surtout, la dynamique du duo marche un peu moins bien que la première fois. On est beaucoup plus dans le truc... J'y reviendrai après dans une interview parce qu'il y a le même problème. Dans ce côté... qui est à l'heure actuelle dans toute la comédie américaine, de se reposer sur leur laurier, à savoir la bromance. La bromance, donc, c'est une sorte d'histoire d'amour entre deux hommes au travers d'amitié et qui, évidemment, sous-entend des relations homosexuelles. Et encore une fois, ils vont encore là-dedans, qui est un truc vu, archi-revu, et ça freine un peu toutes les ambitions du film. Néanmoins, je vous conseille le film, vraiment, il faut le voir pour une seule raison, c'est son générique de fin. Le générique de fin, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Mais le film est sorti cet été, je crois, en salle, non ?
Ouais, ouais, il a eu un beau succès. Ouais.
T'en avais pas parlé à la radio ?
Non, du coup, non, comme c'est cet été. Hein.
Ouais, mais j'ai entendu, enfin, j'ai lu ça un peu partout sur les réseaux sociaux que le film méritait un détour, en partie grâce à son générique de fin. N'en dis pas plus.
Non, je dirais pas, mais c'est une idée géniale, extrêmement pop. Je peux pas en dire plus, mais c'est de la pop pure. Ça part dans tous les sens. Et on pourrait le rapprocher, pour ceux qui l'ont vu, du court-métrage Too Many Cooks, qui a cartonné sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur une chaîne de télévision dont le nom m'échappe. Bref, regardez Too Many Cooks, regardez 22 Jump Street et vous allez avoir l'essence même de la pop culture en 2015.
Très bien, et ben écoute, on fait une petite pause musicale et ensuite on te retrouve pour parler de The Interview. Working on my knees, baby, it's alright. Everybody got to seize, baby, it's alright. You can steal from me, baby, that's just fine. Say it's free, baby, that's alright. Working on my feeling, breaking down the ceiling, digging up the deep end. Freezing on the beaches, reaching for the sweetest, sweetest beaches.
Ceiling, digging up a deep end. Freezing on the beaches, reaching for the sweetest, sweetest peaches.
Vous êtes toujours sur Brume 90.7 dans Confluence spécial cinéma. Alors Raphaël, on va se retourner vers toi une nouvelle fois pour t'écouter parler de The Interview, ce fameux film qui a failli être menacé par
qui a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale, oui.
Coréenne, qui aux États-Unis est sorti directement en DVD, en France très tôt.
Non, c'est plus complexe que ça. Et donc la Corée du Nord, je simplifie vraiment. Oui, hein. La Corée du Nord fait pression sur le film bien en amont. Mmh. Sony change les éléments du film, notamment les uniformes nord-coréens. Le film donc continue, fait sa promo. Il devait sortir le 25 décembre aux États-Unis, donc jour de Noël. Les menaces continuent, menaces, risque d'attentat. Sony prend les chocottes, décide de ne pas sortir le film dans le monde entier, hein, même pas de sortie Blu-ray, etc. La pression donc, s'accentue par rapport. Même Barack Obama en a parlé à la télévision américaine, etc. Pour parler justement avant Charlie Hebdo de la liberté d'expression et compagnie. Le film, du coup, sous la pression, il décide Sony de le balancer sur Internet. Immense raz-de-marée, hein, ils font 15 millions de dollars à peu près en une semaine en VOD, hein, en téléchargement légal. Hein. Je crois, pareil, ils ont 2 millions de téléchargements illégaux. Enfin, voilà, tout le monde veut le voir le film, quoi. Et donc, il décide de le ressortir, du coup, pour surfer sur le succès et du coup rentabiliser un petit peu. Hein. Il a coûté 40 millions de dollars le film, donc ils essayent de rentabiliser
la
perte. Le
prix de Tekken 3.
Exactement. Et maintenant, je crois qu'il va sortir directement Blu-ray aux États-Unis dans une Freedom Edition, qui s'appelle, ce qui est assez drôle parce que les mecs, ils ont quand même la liberté d'expression, ils l'ont quand même bien foulé, quoi. Et du coup, il sort chez nous, voilà, en salle, dans quelle salle.
Je me souviens que quand l'affaire a éclaté et que les médias français l'ont relayé, alors sur BFM, sur iTélé, sur toutes les grandes chaînes du service public, tout le monde disait que le film sortirait en France, mais que la sortie était décalée de 2 mois.
C'est ça.
Donc, dès le départ, il y avait une sortie.
Du coup, ils l'ont même avancé parce qu'il devait sortir en février. Et il sort aujourd'hui.
Alors, on t'écoute sur ce film.
Alors, ce que j'aimerais dire d'abord, avant de commencer de parler exactement du film, beaucoup de médias ont attaqué le film en disant tout ça pour ça. Ils ont faux. Enfin, du moins en partie. Le film, on peut l'attaquer, et je vais l'attaquer d'ailleurs parce que ce n'est pas un très bon film. On l'attaque pour les mauvaises raisons. Les médias s'attendaient à une sorte de dictateur 2.0. Parce que le film retrace donc l'histoire de deux zozos qui viennent de la télévision. Un est producteur, donc Seth Rogen, et un est animateur, donc James Franco. Et ils ont pour mission, durant une interview, de tuer Kim Jong-un, donc le dictateur nord-coréen, alors qu'eux n'y connaissent absolument rien. Et donc, à partir de ce postulat, les médias ont fantasmé une sorte de grand, une sorte de grande satire politique, comme autrefois, qui dénoncerait à travers le rire, etc. Alors que pas du tout, je veux dire, moi, j'adore la comédie américaine, vous le savez. Et je peux vous dire que la comédie américaine, ça parle de beat, ça parle de paix, et jamais ça parlera de liberté d'expression, etc. Donc déjà, c'est déjà un faux débat à la base. Donc le film, il faut le critiquer sur ce qu'il est. Et le film, le problème du film, moi je trouve en tant qu'amateur de ça, en tant qu'amateur de Seth Rogen, hein, j'aime beaucoup, hein, donc c'est lui qui a réalisé avec son comparse Evan Goldberg, hein, donc ils étaient scénaristes à la base, hein, ils ont écrit Super Grave, Le Frelon Vert, etc. Et sont passés à la mise en scène avec C'est la fin, donc This is the End. Et à partir de là, on pouvait s'attendre quand même à une forme de renouveau. Et le problème du film, c'est qu'il se repose. C'est le même problème que 22 Jump Street se repose sur les lauriers de la comédie américaine. D'ailleurs, 2014 va être, je pense, on va l'étudier, une année assez charnière. L'année post-Apatow, où ils volent tous de leurs ailes maintenant. Ils sont tous soit producteurs, acteurs, scénaristes, mettant en scène pour Seth Rogen. Et on voit très bien que sans lui, finalement, bah, ça part en couille. Tout simplement, voilà, ils font le même film encore et encore, le même problème, la bromance, comme 22 Jump Street, les sous-entendus homosexuels. James Franco nous refait le coup encore et encore de l'homo. Là, il est en train de faire un nouveau film là, pour Sundance, c'est la même chose. Il n'arrête pas de jouer dans cette catégorie, tandis que Seth Rogen continue avec ses blagues dans le cul. Voilà. Dans celui-là, par exemple, il s'enfonce une ogive nucléaire dans le cul, par exemple. C'est drôle, hein, je dis pas que. Mais c'est un peu toujours la même chose, quoi. Et c'est assez dommage, d'autant plus que This Is the End promettait un renouveau, quoi. Promettait, Goldberg, Rogen passent maintenant à la mise en scène. Et malheureusement, ils n'en font pas grand-chose. Mais, il y a quand même un grand mais, le film est assez surprenant sur deux points de vue. Il est très gore. Il y a des séquences vraiment...
Ils ont, sur iTélé, lors du débat sur l'affaire, ils ont... Ces abrutis. Ils ont diffusé la fin du film, oui, la mort du dictateur, ouais, qui se passe sur un hélicoptère et qui est filmé au ralenti. Où on voit
au ralenti sur Katy Perry.
Katy Perry en
sur
plus.
Firework, donc feu d'artifice, c'est quand même une super idée.
Avec voilà, une sorte de massacre en direct filmé.
Et encore, ils l'ont, ils ont changé parce qu'à la base, ils devaient fondre devant l'image.
Ils devaient fondre.
Ouais, mais ils l'ont tourné, donc peut-être qu'on verra cette séquence, mais ils devaient fondre. Un peu, tu sais, à Indiana Jones, tu sais, que les nazis qui fondent. Et c'est un peu la référence de Seth Rogen sur du Katy Perry. Donc le film est très gore. Seth Rogen se fait bouffer je sais pas combien de doigts dans le film par des Coréens, les têtes explosent. Enfin, là, pour le coup, tu te dis, mais ouais, c'est pas mal, quoi. Et deux, les scènes d'action, toute la fin avec un tank, des courses-poursuites, etc., avec l'armée coréenne qui part aux trousses de nos héros, et ben elles sont étonnamment bien filmées, bien rythmées, bien montées. Bref, peut-être que Seth Rogen et Goldberg pourraient peut-être nous faire un film d'action plus tard. Et ce que j'aimerais aussi souligner, c'est la performance de Randall Park, qui est un acteur qu'on avait pu voir dans les films de Nicolas Stoller, notamment dans 5 ans de réflexion. C'est un jeune acteur qui a une trentaine d'années et qui joue donc le dictateur, hein, qui joue Kim Jong-un. Il est incroyablement bon. Il vole la vedette à Rogen et Franco. Il est d'une à crever de rire et en même temps extrêmement flippant. Et je pense que c'est ça le problème pour la Corée du Nord. C'est pas tant qu'on le voit fondre à l'écran, c'est qu'il est montré comme un enfant de 8 ans en fait. C'est un gamin qui a des problèmes avec son père. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est américain, en gros. Il aime le basketball, il aime Katy Perry et les margaritas. Alors que son père, non, lui, c'est un dictateur. Donc, il doit reprendre le flambeau familial. Il veut pas de ça. Donc, du coup, il est un peu des élans, un peu parfois psychopathe. On comprend qu'il est quand même assez instable.
Déstabilisé, oui.
Voilà, mais c'est un gamin de 8 ans. Et je pense que c'est vraiment ça qui a dérangé. Et il est très attachant, en plus. On s'attache beaucoup plus, bizarrement, au dictateur qu'au producteur et animateur que sont...
J'ai vu sur Allociné hier soir, ils ont dévoilé les meilleurs films des plus grands dictateurs.
Oui, et très très
lui,
drôle. Ouais.
Et pour lui, c'est quoi son meilleur film, préféré?
Je sais plus. Ils ont un vieux dossier, il l'avait fait il y a bien longtemps. Bon. Je crois que Fidel Castro, son film préféré, c'est E.T. l'extraterrestre, une bête bêtise. C'est assez drôle.
Pour Hitler, c'était Metropolis. Et des rumeurs disent qu'on aurait retrouvé une copie du dictateur en son bunker à sa mort. Bon, ça, on essaiera de retrouver le nom après la pause.
Hein. Je sais. Kim Jong-un, donc son père, Kim Jong-il, je vais y arriver, était un très très grand cinéphile. Vous pourrez trouver ça dans son film. Il y a un magazine, ils ont fait un dossier là-dessus. Il avait plus de 40 000 copies de différents films. Il adorait le cinéma porno, érotique, américain, occidental, et il adorait Dans la ligne de mire, avec Clint Eastwood et John Malkovich. D'accord. Et il a demandé que ses funérailles les mêmes, en fait, tu sais, quand Clint Eastwood il court après le convoi présidentiel en touchant à la voiture, qu'on fasse la même chose, quoi. Et il adorait Rambo, ils adoraient bizarrement tous les films américains. Et c'est aussi peut-être l'un des problèmes de cette fameuse polémique, c'est que le cinéma, c'est vraiment un point de vue assez névralgique en Corée du Nord, justement par rapport à cette cinéphilie familiale dictatoriale. C'est vraiment un point qu'il ne faut pas toucher chez eux, quoi. Bon. Moi, j'espère maintenant que Goldberg et Rogen vont vers autre chose. Rogen apparemment fait le nouveau film de Danny Boyle sur Steve Jobs, écrit par Aaron Sorkin. J'espère que ça va être très bien et je pense que ça va être très bien. Et c'est très bien pour lui.
Qui jouera Steve Jobs ?
Michael Fassbender. Donc le duo, ça va être Seth Rogen Fassbender, qui est un bon duo, je pense. Il fait John Milius pour le nouveau film réalisé par James Franco. Là, Seth Rogen. Donc là, ça peut être alléchant, mais surtout Goldberg et Rogen donc préparent un dessin animé qui s'appelle Sausage Party, donc la saucisse party, donc ça veut tout dire, avec Jonah Hill, enfin toute la bande encore, et surtout ils préparent une série, donc Preacher, adaptée du comics du même nom pour AMC, donc je crois que c'est la chaîne de Breaking Bad, etc. Et ils ont posté leurs influences là sur Twitter.
Belles influences, hein.
Terrence Malick, The Raid,
J'ai rencontré le diable, voilà. Les Kill Bill,
ouais. Et ça laisse espérer.
La trilogie du dollar de Sergio Leone.
Enfin, le renouveau que j'attends. D'autant qu'ils sont, je pense, légitimes maintenant pour l'action, etc. Parce que le film est assez bien réalisé, mais pas très drôle, tout simplement.
Alors, chers auditeurs, si demain après-midi vous ne travaillez pas, je vous conseille de vous rendre à l'Institut Lumière pour voir un documentaire réalisé par Werner Herzog qui s'appelle « La grotte des rêves perdus ». Ce film sera projeté à 14h30 et a été réalisé en 2010 par ce célèbre réalisateur allemand dont on a déjà évoqué la carrière il y a de cela 2 semaines. Alors, c'est un documentaire sur la grotte Chauvet qui a été découvert par M. Chauvet, d'où ce nom, en 95 en Ardèche. Et la particularité de cette grotte, c'est qu'il y a dans ce lieu qui, à l'heure actuelle, est toujours inaccessible pour le public.
Comme Lascaux, quoi.
Voilà. 420 représentations d'animaux peints et gravés qui auraient été conçus 31 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, Werner Herzog plonge dans la grotte, donc ils ont 4 jours de tournage avec une petite équipe, ils sont à chaque fois 4 à chaque fois. Donc Werner Herzog, un technicien, plus un caméraman, plus un éclaireur et un guide. Et ils vont passer une semaine entière à filmer l'intégralité de la grotte, ses représentations. Et puis même la géographie de ce lieu qui petit à petit est découvert. Alors quand le film est conçu en 2010, les chercheurs sont encore en train d'explorer cette zone. Comme il est dit au début du film dans un carton, là le lieu n'est pas du tout ouvert au public car trop dangereux, bien qu'il ait été aménagé. C'est drôle, quand l'équipe rentre dans la grotte, il rentre dans une porte qui a quand même un
poignet,
pas une poignée, non, je veux dire comme dans les coffres forts, avec un
petit code. Oui, d'accord.
Voilà, et donc quand tu
un cadenas,
non, mais pas un cadenas, c'est comme le rond que tu tournes pour ouvrir un coffre fort.
D'accord,
c'est ça. Et donc, du coup, quand tu rentres, tu as l'impression d'entrer dans une banque à Zurich. En fait, non, c'est une grotte,
oui, c'est ultra protégé, quoi.
Ultra protégé. Et dans le film, on annonce que voilà, en 2014, la région Rhône-Alpes et le conseil général de l'Ardèche ouvrira une représentation quasi identique réelle de la grotte au grand public.
Oui, il la prépare à l'heure actuelle, oui.
Donc, elle est pratiquement terminée là. Et ce qui est vraiment génial avec ce film, bon, c'est en termes documentaires, c'est pas révolutionnaire. Les premiers plans sont assez dégueulasses parce qu'ils n'avaient, ils n'avaient pas encore, les premiers jours, ils n'avaient pas encore le matériel adéquat pour pouvoir filmer dans cette pénombre. Donc l'image est assez dégueulasse au départ, mais on peut faire abstraction. Hein. Mais on se rend, ce qui est vraiment ahurissant avec ce film, c'est qu'on se rend compte que il y a 30, enfin même plus, mais 31 000 ans avant Jésus-Christ, des hommes des cavernes avait le don de peindre des œuvres d'une beauté incroyable. Il faut se dire qu'à l'époque, ces personnes-là travaillaient avec à la lumière d'une flamme et ne faisaient pas les grandes écoles qu'il y avait maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de grandes écoles, il n'y avait rien, il n'y avait pas de civilisation. Et quand tu vois ces gravures, c'est hallucinant, ça en donne des frissons. Et même à un moment donné, ils sont en train. Alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, la plupart des gravures sont des animaux. C'est des animaux qui attaquent d'autres animaux. Ils décrivent le guide montre bien que sur certains dessins, le mouvement est déjà représenté, comme dans une bande dessinée. Déjà, il y avait une réflexion autour du mouvement, comment on pouvait animer des images fixes. Et à un moment donné, ils sont au fin fond de la grotte et il y a un dessin qui a été gravé sur une sorte de roche en forme de cône qui pend. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder à... On peut voir qu'une partie du cône. Et le dernier, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas mettre un pied parce que le sol peut s'effondrer. Enfin, c'est très, très fragile. Et donc, du coup, ce qu'ils disent, on a un peu du mal à le voir à l'écran parce que c'est très, très mal représenté. Mais apparemment, le dessin qui est représenté, c'est l'image d'un mammouth qui serait en train de lécher le vagin d'une femme. C'est hallucinant. Bon, voilà, c'est peut-être les premières pulsions sexuelles de l'homme des cavernes. Et,
comme quoi, la pornographie a toujours existé.
On ne distingue pas vraiment l'écran. Il faut faire des arrêts sur l'image pour vraiment distinguer la chose. Et finalement, au bout de quelques jours, Herzog a pu, avec un petit robot, téléguider une petite caméra. Et on voit le contre-champ, le hors-champ de cette gravure. Et effectivement, c'est vrai. Et voilà. Et le film, en tant que documentaire, bon, il n'est pas génial. Hein, mais en tant que ce voyage dans le passé, hein, des années, des millions d'années, enfin des milliers d'années avant notre ère, et voir ce que les hommes de Cro-Magnon étaient capables de faire en tant qu'artistes, peintres, graveurs, sans le savoir-faire des grands artistes de la Renaissance ou des grandes du savoir-faire que les grandes écoles peuvent nous donner maintenant, ça fout les jetons.
Mais ce qu'il faut dire, tu parles du mouvement, justement, ça c'est déjà la base du cinéma, c'est la représentation en mouvement d'une image. Et ce qui est extraordinaire, tu l'as pas dit, c'est que Herzog, donc le film sorti en 3D, alors, a été post-produit en 3D.
Contre, parce que vu l'espace qu'il y a dans la grotte, tiens, on a vu les clichés des caméras en 3D que Cameron utilisait sur Avatar.
Oui, c'est
là,
pas
ces
les mêmes,
caméras-là,
oui.
Tu pouvais pas les mettre dans la grotte. Mais c'est un film qui a été ensuite
post-produit, comme la plupart des films actuels. Quoi.
Alors, Institut Lumière, un film projeté en 2D.
Et ça montre quand même le génie d'Herzog que de confronter la technologie la plus moderne à l'heure actuelle en termes de représentation d'image, la 3D, en tout cas celle qui est la plus utilisée au niveau commercial, hein, j'entends, et la confronter justement à la source même de l'art. C'est une idée, mais je trouve profondément intelligente. Et je ne l'ai pas vu, moi, non, je l'ai pas vu le film, hein, ni en 2D, ni en 3D. Mais d'après les critiques qu'il y avait à l'époque, c'est l'un des meilleurs films jamais réalisés en 3D, justement par rapport aussi à la profondeur de champ. Je pense qu'une grotte avec Je pense que c'est ça. Donc tu m'as dit une sorte de stalactite qui cache un dessin. Oui. Je pense que par rapport à la profondeur de champ, ça doit vraiment, et par rapport au cas, ça doit vraiment être probant. Et je pense vraiment que c'est des films comme ça qui peuvent valider la 3D. Comme aussi le Pina Bausch de Wim Wenders.
Encore un Allemand.
Qui base aussi sur le mouvement, etc. Voilà, la 3D peut être vraiment, intelligente quand le propos est là, quoi. Et je pense que parler de l'art comme ça, je pense que c'est vraiment une idée extraordinaire, quoi.
Voilà, donc c'est un film qui est projeté dans le cadre de la rétrospective Werner Herzog à l'Institut Lumière. C'est demain jeudi à 14h30. Si vous avez le temps, je vous conseille d'y aller.
Son Herzog, c'est bien.
Ouais, en général. On fait une dernière pause musicale et ensuite on parle de bouffe. Vous êtes toujours sur Brume 90.7, troisième et dernière partie de ce confluent spécial cinéma. Alors, hier soir s'est tenue à l'Institut Lumière une projection spéciale, une projection du film Le Festin de Babette dans le cadre de la Biennale internationale du goût. Et ça nous a donné envie, à Raphaël et à moi, de parler d'une chose qu'on aime bien dans la vie en général, c'est la bouffe, c'est manger, c'est bouffer.
Qui n'aime pas ça ?
Bah, certaines personnes qui, à vue d'œil, bah, n'ont pas l'air de beaucoup manger.
Ce qui est bien avec la gastronomie, c'est que c'est le seul art qui arrive à transformer une obligation en plaisir. Tu es obligé de manger pour vivre.
Oui.
Mais tu es obligé, c'est une obligation.
Oui.
Mais par contre, grâce à, justement, à la transformation des aliments, ça devient un pur plaisir.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que la nourriture a été plusieurs fois abordée au cinéma. Le plus grand exemple et le premier exemple qui me vient à l'idée, c'est La Grande Bouffe, hein, de Marco Ferreri, qui est sorti en 68, qui a été un gros, gros scandale. Mastroianni, Noiret, Picaolé au générique, bon, c'était une affiche qui faisait saliver. Mais voilà, que raconte le film ? Il raconte le suicide collectif de plusieurs personnes qui s'enferment dans une grande demeure et qui disent de manger à outrance jusqu'à en crever. Et bien sûr, ce qui a choqué à l'époque, c'est ce n'est pas de montrer ces personnes en train de s'empiffrer, de mélanger la sexualité à la nourriture, chose que Hitchcock fera durant toute sa carrière, hein, mélanger la sexualité à la nourriture, hein, allusion sexuelle avec la nourriture. Mais c'est de toucher un. J'avais lu ça, c'est en lisant un entretien de Jean Doucet qui disait ça, c'est d'avoir touché à l'un des patrimoines de la culture française qui est la cuisine. Et de l'avoir mélangé avec du pé, du cul, de la sueur,
des choses vomis, atroces, ouais,
du vomi, hein.
La merde.
C'est ça qui a choqué les gens. C'est de pouvoir. Et c'est vrai que au final, montrer une personne manger en gros plan de façon outrancière, on peut assimiler ça à de la pornographie.
Et oui, non, il y a de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle la food porn aujourd'hui le fait de prendre en photo. C'est marrant. Mais ce qui est drôle dans les films de cuisine, je reviendrai après, mais c'est souvent en fait un moyen pour parler d'autres choses. Et le cas de Ferreri, c'est vraiment un moyen pour parler de consumérisme, de capitalisme. Lui, en tant que grand communiste, en tant que grand provocateur. Et le mec pouvait que jubiler, il y a ces images à Cannes où il a vraiment réussi son coup, il a appuyé là où ça fait mal, énorme scandale quoi.
Puis il y a aussi un autre film qui a voulu appuyer là où ça fait mal en parlant de bouffe et en dénonçant un côté un peu absurde de la société contemporaine de l'époque, c'est Les Loups à cuisses,
bien sûr, oui, c'était plus une critique en fait, je me rappelle plus exactement du nom dans le film, c'est Jacques Tricatel, mais ça existait vraiment, il y avait un homme qui s'appelait Jacques Martel ou un truc comme ça qui avait lancé des restaurants d'autoroute et c'était vraiment de la merde. Et à l'époque il y avait vraiment une guerre entre le guide Michelin qui défend justement une certaine culture française, voilà, c'est ça, hein, l'art français, l'art de vivre à la française, face justement à des industriels. C'est encore aussi, voilà, c'est la lutte entre l'art et le capital finalement. Et c'est vrai que c'est un film qui est très très drôle, qui permet à la fois de montrer des grands plats, mais aussi d'avoir un choc de génération entre Louis de Funès et Coluche.
Oui, hein, oui, parce que le film est en scène. Donc, j'allais dire Louis Fernandez. Louis de Funès, qui dans le rôle joue le rôle d'un grand restaurateur.
Non, d'un critique culinaire.
D'un critique culinaire.
Charles Duchemin.
Qui travaille pour le guide Michelin et qui, au bout d'un moment, sent qu'il y a une mouvance. Un grand spécialiste fait de la malbouffe. Voilà, qui commence.
C'est Julien Guillaume.
À contaminer tous les grands restaurants de France. Et donc, du coup, il décide de mener son enquête et d'aller de restaurant en restaurant pour goûter. Alors, ça donne des séquences assez ahurissantes quand il va chez un restaurateur et qu'on lui, effectivement, on lui fait manger cette nourriture mauvaise.
C'est de la merde. Hein,
oui, fournie par. Très bon.
je le connais très bien le film,
fourni par Tricatel, et on voit qu'il commence à avoir des boutons de partout, etc.
Et il perd le goût. Et en même temps, il veut aussi prendre sa retraite et donc apprendre son fils qui devienne son héritier dans cet empire culinaire gastronomique. Et c'est très intéressant aussi. Comment on transmet le goût aussi, le côté patrimoine, le côté héritage, c'est très intéressant. Ça,
c'est un film qui était un peu marqué en son époque parce que tout le final se passe sur un plateau de télévision qui est animé par Jacques Martin, Bouvard, une émission qui existait vraiment à l'époque. Donc c'est vraiment un film très contemporain. Oui, Hitchcock. C'est vrai qu'Hitchcock aimait beaucoup bouffer. Hein.
Ça se voit. Ouais.
Comme les un peu Chabrol et les
ou
deux
même
metteurs en scène.
Un énorme aussi Depardieu, je pense, tout d'un coup.
Depardieu. Oui. Mais je veux dire, Hitchcock en tant que metteur en scène et plus Hitchcock que Chabrol va utiliser l'image de la nourriture pour faire passer des messages, pour faire entendre des choses. Quand par exemple, je crois, c'est dans Soupçon, son troisième, quatrième film. Non, je pensais pas à ça. Mais c'est un plan beaucoup plus discret. Hein. C'est pas une séquence en elle-même. C'est un plan beaucoup plus discret. Soupçon, son quatrième film. Suspicion en anglais, John Fontaine, Gary Grant. Il y a un moment donné où une romancière invite Gary Grant et John Fontaine et elle parle d'un de ses derniers romans et elle dit voilà, dans mon film, dans mon roman, mon criminel fait ça. Et à ce moment-là, on a un gros plan d'une cuisse de poulet qui est déchiquetée avec la lame. Et souvent, Hitchcock, dans ses films, pour couper l'appétit à ces personnages, les mettait en face de deux personnes qui leur parlaient de choses macabres. Et là, la nourriture jouait un rôle différent.
C'est drôle, mais il faudrait que je te l'évoque en antenne, parce qu'on ne va pas obliger nos auditeurs à écouter ça, mais il y a tout un parallèle, je pense, à faire entre une Glorious Bastard, justement, et Soupçon. Mais on en parlera
avec
en antenne.
Avec la crème.
Justement, le chou à la crème, à la cuillère, le verre de lait. Enfin, c'est compliqué, mais bon.
Et puis bon, alors ça, c'est un autre film qui sera évoqué dans l'émission de ce soir, dans le Radio Day spécial Tsuyark, c'est Le Fessin Chinois. Un film que Tsuyark a réalisé en 95 pour le Nouvel An Chinois, et qui là est un film de kung-fu, de combat, dans la même veine que Une fois en Chine, tous ces grands films d'arts martiaux que Tsuyark a réalisé. Sauf que là, ce n'est pas des combattants qui se combattent, ce n'est pas des maîtres Shaolin, ce n'est pas des maîtres d'arts martiaux qui enseignent un savoir-faire, c'est des maîtres cuisiniers qui vont se combattre l'un et l'autre pour concevoir le meilleur plat possible.
Et la préparation, en fait, c'est vraiment des combats, quoi. Mmh. On en vient toujours à cette métaphore. Toi, Hitchcock, il te parle d'autre chose. Le consumérisme à travers la bouffe par Ferry. Et là, c'est pareil. Il arrive à te faire un film d'arts martiaux en filmant des mecs qui coupent du chou, quoi.
Du chou, qui cuisine des pâtes d'ours.
Voilà. Oui, des pâtes d'ours, la trompe d'éléphant.
Et là, c'est plus de la mise en scène, là.
Bien sûr.
La mise en scène.
Et c'est pareil aussi, j'aimerais l'évoquer, Ratatouille de Pixar, qui est un chef-d'œuvre pour moi absolu de Brad Bird, dans l'animation déjà, mais dans ce que ça véhicule, dans ce côté, en fait, c'est justement aussi le côté critique culinaire. Il y a Antoine Ego, d'ailleurs, il a les traits de Louis Jouvet, c'est très, très drôle pour les gosses, qui défend une certaine idée de la cuisine et qui n'arrive pas à comprendre qu'un jeune puisse être un génie dans la matière, héritier d'un empire, donc Gusteau. Et il y a ce côté, voilà, la plus mauvaise des critiques, même la meilleure, ne vaudra jamais, de toute façon, le pire des films. Bon lapsus. Le pire des plats, quoi. Et en ça, c'est très intéressant. C'est un film, non pas sur la cuisine, mais sur le cinéma. Comment défendre, c'est ça le rôle de la critique, comment défendre l'originalité, l'audace, le talent, la jeunesse, au lieu de démonter constamment, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que Pixar est venu chez moi, enfin dans ma ville, à Vienne, parce qu'à Vienne se tient la pyramide, un restaurant, je crois, 3-4 étoiles, dirigé en fait autrefois par une figure, immense figure, Fernand Point, un cuisinier qui pesait 160 kilos. Il avait une tête assez reconnaissable, etc. Et Pixar est venu en fait voir les ayants droit de l'image de Fernand Point pour récupérer l'image pour Gusteau, donc le cuisinier qui se suicide dans le film. C'est Bernard Loiseau, hein, c'est clairement annoncé. Hein. Et bon, ils n'ont pas voulu, mais Pixar sont foutus complètement. Ils ont quand même adapté ça à Fernand Point. Et Fernand Point, c'est un sacré personnage. Hein. Chez nous à Vienne, c'est un mec qui buvait tous les jours en se rasant une coupe de champagne sur sa terrasse. Ça a été un homme extrêmement résistant, un homme qui a caché des aviateurs anglais dans son restaurant, qui les a nourris, logés. Et c'est le premier restaurateur à avoir en fait reçu le général Eisenhower à Vienne, quand il a libéré en fait le sud de la France, il est passé dans son restaurant, il a bouffé comme un goinfre, et après il a continué son avancée avec les alliés, quoi. Donc c'est un sacré personnage. Franchement, il faudrait faire un jour un film sur ce mec, et c'est le mentor de Paul Bocuse, pardon, qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand cuisinier de tous les temps, en fait. Donc voilà, Pixar connaissait apparemment cet homme, et c'est bien d'en parler à Ratatouille, quoi.
Alors, il est 19h18, nous espérons que nous vous avons donné envie de cuisiner, de manger, de bien festoyer en ce mercredi soir. Comme je le disais tout à l'heure, ce soir à 21h, premier Radio Days spécial Tsuyark. Nous reviendrons sur la carrière extraordinaire, exemplaire de ce réalisateur hongkongais. Raphaël, bon, tu nous quittes pour quelques jours, tu vas
dans les Vosges,
enneigées.
Voir les grands sapins noirs vosgiens.
Le 22e festival de Gérard Mey.
Oui, je ne sais plus si c'est le 21e ou le 22e. Oui,
le 22e,
avec une très bonne programmation. Avec le nouveau Kevin Smith, le nouveau Wachowski.
Et avec, en tête d'affiche du jury, Christophe Gans.
Christophe Gans, président, que j'aime beaucoup. Très bon choix. Très, très bon choix.
Et qui a créé HK Vidéo, HK Orient Extreme.
Tout est lié.
Qu'on évoquera ce soir dans l'émission de Tsuyark.
Donc, je viendrai la semaine prochaine avec plein de films à chroniquer.
Normalement. On l'espère. Avec des bons films surtout. Hein.
Cette année, la programmation fait très envie. Donc.
Et avec un hommage à Robert Rodriguez.
Mais qui sera là. Ouais.
J'espère, tu nous diras, hein, j'espère qu'on verra si les geeks, comme on aime appeler le public de Gérard Mey, auront, entre guillemets, les coronesses de le huer, hein, comme ils ont très souvent la facilité de le faire une fois qu'ils ont un micro ou un stylo entre les mains. Et puis voilà, on verra. Moi, Robert Rodriguez, c'est un metteur en scène que je trouve très bancal, mais qui a fait 2-3 bons films, Desperado, Sin City ou Une nuit en enfer. D'ailleurs, je crois qu'Une nuit en enfer est programmée oui, comme Sin City. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je ne sais pas si vous aurez chance d'aller à Gérardmer. En tout cas, si vous y allez, bon séjour, bon week-end. Raphaël, je te souhaite également un bon week-end. Je te remercie, Jimmy, et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci avec Amaury, je l'espère.
À bientôt.
Bonne soirée.